Bonjour Jean-Pierre Rosenzweig.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, les députés ont adopté cette semaine le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, porté par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Mais un article a fait débat avant même sa promulgation et il continue de susciter la controverse. C'est l'article 2 de cette future loi concernant les agressions sur mineurs et la question de savoir si un enfant de moins de 15 ans peut consentir ou pas à un rapport sexuel avec une personne majeure. Je voudrais commencer par une question très simple, parce que c'est assez compliqué quand on se plonge dans cet article 2 d'essayer de comprendre s'il apporte quelque chose ou pas, si effectivement la loi sanctionne plus sévèrement les atteintes sexuelles de personnes majeures sur les mineurs, ou si au contraire, comme le laisse entendre une pétition signée cette semaine, l'article 2 transforme le viol en délit en parlant d'atteinte sexuelle avec pénétration. C'est assez compliqué, vous vous dites non, c'est assez simple. Alors soyez extrêmement pédagogique, que dit cet article 2 et que dit cette loi en matière d'agression sexuelle sur les mineurs?
Alors d'abord, je vais reprendre légèrement ce que vous avez dit, les députés ont adopté. 125 députés ont adopté, les 300 autres étaient à la buvette en train de regarder sûrement l'OM contre la
Télécom. Tous
de
les
Madrid.
Députés n'ont pas voté, certains ont voté
termes,
contre, certains se sont abstenus.
Mais la boutade, ça veut dire que quelque part, même les parlementaires, donc ne faites pas de complexe comme journaliste à rien comprendre, je pense que beaucoup de parlementaires aussi étaient perdus. Alors pourquoi c'est simple? On attendait un message clair et fort après les affaires de Pontoise et de Melun qui voulait que on vienne laisser à penser que deux gamines, parce que ce sont pas des jeunes filles comme on dit des journalistes, hein, des gamines à 11 ans avaient pu être consentantes en ne s'opposant pas physiquement, en ne criant pas, en ne se débattant pas à des adultes qui leur avaient imposé des relations sexuelles. Donc la ministre s'était engagée à ce qu'il y ait désormais dans la loi une présomption, on appelle ça irréfragable en droit, mais disons absolue en langage commun, selon laquelle quelqu'un qui a moins de 15 ans ou 13 ans, peu importe l'âge pour l'instant, ne pouvait pas donner un consentement libre et éclairé. Tout le monde attendait ça.
Ça, c'était à l'automne 2017.
Voilà. Et tout le monde applaudissait des deux mains. Finalement, cinq mois plus tard, vent debout, les députés sont pas là et deuxièmement, les associations sont contre. Alors, cherchez l'erreur. L'erreur, elle est très simple. C'est que petit un, la ministre s'est engagée d'une manière un petit peu irresponsable sur le plan juridique. Elle oubliait l'avis du Conseil constitutionnel qui veut que, en matière pénale, il puisse pas y avoir de présomption absolue. Ça ne peut être que des présomptions simples. On présume quelque chose, mais on doit pouvoir apporter la preuve contraire. Donc à partir du moment où la ministre s'est engagée, elle ne pouvait pas tenir, elle a déçu tout le monde. Un ministre doit ouvrir, j'allais dire travailler avant d'ouvrir sa bouche, si je puis me permettre cette expression. Alors ils ont essayé de se rattraper au meuble, en venant dire, d'éclairer le comportement que devaient avoir les juges, qui restaient libres bien sûr de décider ce qu'ils veulent. Et on vient dire dans le projet de loi que les juges devront tirer du non-discernement de l'enfant le fait qu'il y a un non-consentement. En d'autres termes, ils sont passés par l'école de la magistrature depuis longtemps, venir leur dire des choses comme ça, ça n'a strictement aucun intérêt.
C'est-à-dire que pour étayer le non-consentement de la victime, il va s'agir de préciser les notions de contrainte morale ou de surprise qui sont comprises dans un viol, en prenant en considération l'abus de vulnérabilité et son discernement.
En d'autres termes, on fait de l'exégèse.
Vous voyez comme ça se complique déjà.
Oui, mais on fait de l'exégèse de la loi pour ne pas dire qu'on n'a rien fait. Point terminé. Mais résultat concret, la promesse qu'on avait prise n'est pas tenue. Or, dans le même temps, et c'est là où le piège se referme, on vient porter de 5 à 10 ans les peines encourues pour atteinte sexuelle, on rajoute le mot pénétration. N'importe qui n'a pas fait de droit dit, attends, une atteinte sexuelle sur un enfant de moins de 15 ans, avec pénétration, qu'est-ce que c'est d'autre?
Ça s'appelle un viol, non?
Un viol. Donc, on s'est pris les pieds dans le tapis, pour une raison qui est très... Alors, bien entendu, tout le monde crie, non seulement vous n'avez pas tenu la promesse, mais en plus vous faites régresser les choses, puisque qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais parler en sociologie judiciaire. Comment le procureur de la République, comment le juge d'instruction vont prendre le risque d'aller devant une cour d'assises ou des jurys populaires, vont dire, finalement, ce monsieur, il a été séduit par cette gamine de 11 ans. Donc, j'acquitte. Donc, plutôt que d'aller chercher au risque de l'acquittement 12 ans de prison, je vais être sûr d'obtenir 8 ou 9 ans devant mes collègues du tribunal correctionnel. Donc effectivement, en pratique, c'est une correctionnalisation du viol. Alors je pense que l'erreur est la suivante. On n'aurait pas dû être sur le terrain du viol. La question est simple. On doit poser comme principe que dans un pays comme le nôtre, au niveau de culture où nous en sommes et de civilisation, le fait pour un adulte, quelqu'un qui a plus de 18 ans, d'avoir une relation sexuelle, quelles qu'en soient les raisons, quelles que soient les circonstances, avec quelqu'un qui a moins de 13 ou de 15 ans, c'est un crime. On aurait dû faire une infraction spécifique, le fait d'avoir des relations sexuelles pour un adulte avec quelqu'un qui a moins de 13 ans.
Jean-Pierre Rosenfeld, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence d'âge qui compte dans cette relation entre majeur et mineur? Parce que imaginez, et c'est ce que fait dans son article Irène Théry cette semaine dans Libération, imaginez deux jeunes qui s'aiment, 14 et 18 ans. Vous ne dites pas c'est un viol si jamais ils ont décidé d'avoir une relation sexuelle ensemble, entre 14 et 18 ans.
Il faut poser des interdits. Quelque part, il faut poser des interdits. On intégrera ça dans les circonstances atténuantes, si vous le voulez, ou dans l'appréciation, parce que je vous rappelle que le procureur apprécie l'opportunité des poursuites. Les procureurs ne sont pas débiles, ce sont des magistrats de la République. À 14 ans, avec un gamin, on a démontré qu'une gamine de 14 ans est en amour avec un jeune de 18, ou inversement, le procureur dira, ben dans cette affaire-là, effectivement, il n'y avait pas réellement de contrainte. Il ne poursuivra pas, quitte éventuellement à la victime ou aux parents de la victime d'engager la poursuite. Donc on a les éléments, si vous le voulez. Là, on est sur un truc très simple. Ne les compliquons pas. La question est de savoir, est-ce que quelqu'un qui a plus de 18 ans, 28 dans l'affaire de Pontoise, 22 dans l'affaire de Melun, est-ce qu'il est légitime à avoir des relations avec quelqu'un qui a moins de 15 ans ou 13 ans? Moi, je disais 13 ans pour une raison qui est très simple. On ne pourra pas venir dire que quelqu'un qui a moins de 13 ans s'est laissé passer pour quelqu'un de 18. Il faut aller à la télé aux 20h en disant « touche pas à l'enfant ». C'est clair, c'est net. Si tu touches à l'enfant, tu passes en cour d'assises. Après, tu pourras plaider les circonstances atténuantes. C'est simple. On aurait pu faire simple, mais on s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'on a pris un engagement juridique et politique trop rapide, qu'on a été obligé de reculer, qu'on a voulu quand même montrer qu'on faisait quelque chose, et résultat concret de la manœuvre, eh bien on donne l'impression de faire le contraire de ce qu'on avait annoncé, de ce qu'on voulait faire. C'est ce qui s'appelle ne pas faire de la politique ou faire de la mauvaise politique.
Comment l'expliquer selon vous? Pourquoi alors qu'à l'étranger, il existe des présomptions de non-consentement.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de
12 ans en Espagne, aux États-Unis, 13 ans en Grande-Bretagne, 14 en Belgique et en Allemagne, 15 au Danemark. Il existe presque partout autour de nous.
Tout simplement parce qu'on n'a pas travaillé avant. Ça ne s'improvise pas, toutes ces choses-là. Il faut un travail préparatoire. C'est comme ces députés qui viennent nous proposer une proposition de loi sur la garde alternée et qui oublient que le mot garde n'existe plus en droit depuis 20 ans. Le dégagisme, qui consiste à dégager les personnes, a aussi dégagé les idées. Voilà, c'est tout. C'est idiot. Et les fonds de dossier. Je pense qu'on n'a pas préparé les choses. Il n'y a pas, alors maintenant sur le fond, il n'y a pas de réflexion de fond sur ce que c'est que les droits des enfants, sur le statut de l'enfance, etc. Et s'il y avait eu un minimum de réflexion, eh ben, on se serait aperçu de ce que, on aurait dit banalement, qu'un gamin ou une gamine de 13 ans ou 14 ans ne peut pas vous donner un consentement éclairé d'avoir une relation avec un adulte.
Point. Et l'article 1 qui augmente le délai de prescription de 20 à 30 ans après la majorité pour les crimes sexuels sur mineurs ne suffit pas à compenser l'article 2 qui si compliqué
non,
pour
non, parce
rien.
Que c'est pas la même, c'est pas la même nature. Alors, l'article 1 dont vous parlez, la prescription qui est portée de 20 à 30 ans, il s'imposait mécaniquement puisque vous savez qu'en 2016, on a augmenté tous les délais de prescription de droit commun. Donc, après la mission Flamand et notre collègue magistrat, il a décidé de passer de 20 à 30 ans. Moi, à la limite, par provocation, je dirais qu'on devrait même aller vers l'imprescriptibilité. Si on va aux 20h au journal télévisé pour dire désormais, celui qui s'attaque, qui est majeur et qui s'attaque à un enfant de moins de 13 ans, devra rendre des comptes toute sa vie de ce qu'il a fait, bah ça pourra contribuer à diminuer peut-être les atteintes ou les agressions sur les enfants. Ne parlons plus de viol, mais parlons des violences sexuelles faites aux enfants. Voilà.
Jean-Pierre Rosenfeld, vous dites on ne pense pas assez, on ne réfléchit pas assez à la protection de l'enfance malgré tout. On voit dans votre ouvrage, Rendre justice aux enfants, qu'en 40 ans, les choses ont considérablement évolué.
Heureusement qu'un certain nombre de gens ont milité pour faire bouger les choses. À la fois des professionnels qui les ont fait bouger au quotidien, des militants associatifs dont j'ai été, des hommes politiques, des responsables politiques. Regardez sur la dernière législature, avec la loi de 2016, on a fait progresser un petit peu le schmilblick. Non, alors il faut pas dire, bien entendu, qu'on est resté à égalité, ou voir qu'on a régressé. Pour autant, on a encore une marge de progression. C'est comme ceux qui contestent tous les jours le travail de la protection judiciaire de la jeunesse ou le travail de l'aide sociale à l'enfance. Bien évidemment que ces institutions peuvent être critiquées à la marge, mais globalement, elles font en sorte que des gamins délinquants ne le soient plus, et que des enfants en danger le soient moins. Donc on a toujours une marge de progression. Nous ne sommes pas à égalité avec le niveau de, au quotidien, je ne parle pas dans la loi seulement, mais au quotidien avec le niveau de protection qui est dû aux enfants. Il y a toute une série de pans du dispositif de protection de l'enfance qui se sont dégradés sur les 40 dernières années. En 1976, le rapport Beaupère du Conseil économique et social signalait que le service de santé scolaire et le service social scolaire étaient sinistrés, ils n'ont toujours pas été rétablis. Il pointait aussi que la psychiatrie infantile était en grande difficulté, les problèmes n'ont pas évolué positivement. J'ajoute qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur la protection maternelle et infantile. En d'autres termes, notre dispositif de protection de l'enfance, pour des raisons économiques, est en grande difficulté.
Il y a un endroit précisément, plus spécifiquement d'ailleurs, où les choses sont plus inégalitaires et inadaptées, en tout cas ce sont les mots des rapporteurs, où ça va très très mal, Jean-Pierre Rosenfeld, c'est en Seine-Saint-Denis, d'après un rapport dont Le Monde s'est procuré le contenu et qui sera rendu public le 31 mai à l'Assemblée nationale. C'est un rapport d'évaluation de l'action de la puissance publique dans le département de Seine-Saint-Denis qui montre qu'il y a moins de policiers, moins d'enseignants, moins de greffiers, moins de magistrats, moins de médecins scolaires. Vous avez passé 22 ans à Bobigny, qui fait partie de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez constaté autant de difficultés et encore aujourd'hui ?
Vous admettrez, pour m'avoir lu et suivi, que je fais partie des gens qui ont tiré le signal d'alarme pendant des années et des années. Mais dans le même temps, et c'est ça qu'il faut le dire, c'est qu'il y a un tas de gens, de professionnels. C'est là qu'on a inventé la protection maternelle et infantile. C'est là qu'on a inventé les classes relais. C'est là qu'on a inventé le traitement réel chez le procureur de la République. On a toute une série de travailleurs sociaux, de magistrats, d'enseignants qui ont été, de médecins, qui ont été inventifs. Au point, à un moment donné, je proposais au président du conseil départemental que nous fassions nous prenions une grande page de publicité dans Le Monde, que lui, bien sûr, aurait payé, parce que moi, j'ai pas d'argent, qui consistait à dire, la Seine-Saint-Denis, la Silicon Valley du social. En d'autres termes, vous avez 40 ans, vous voulez donner du sens à votre vie professionnelle, venez vous engager en Seine-Saint-Denis pour relayer ceux qui sont déjà là. Tout ça pour dire avec du mauvais humour qu'effectivement la situation que restitue ce rapport en disant l'implication de la République et de la puissance publique en général n'est pas à la hauteur des besoins sociaux qui sont ceux de la Seine-Saint-Denis, il est tout à fait fondé. Bien évidemment qu'il est fondé, malgré de gros efforts. Souvenez-vous qu'il y a 5 ans ou 7 ans de ce plan fantastique qui avait été développé en Seine-Saint-Denis pour l'éducation nationale. Pourtant, c'est pas à la hauteur du problème. Regardez, il y a quasiment pas un seul établissement scolaire en Seine-Saint-Denis du primaire dans lequel il y a un service social scolaire. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai manqué un jour, à un moment donné, j'ai manqué d'être nommé délégué interministériel à l'enfance et la famille. Et Monsieur Guéant qui me recevait me disait, Monsieur Rosenfeld, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Moi, je lui disais, il faut mettre du social à l'école. En d'autres termes, il faut aller le plus vite possible à la rencontre des enfants qui sont en difficulté pour leur apporter une aide. Et en apportant une aide à ces enfants, on apportera une aide aux parents. Et Monsieur Guéant me disait à l'époque, oui, ça on l'a prévu de le faire. Il parlait de la présidence Sarkozy. On a prévu de le faire. Non, je lui dis, vous avez prévu de mesurer le périmètre des crânes des enfants de 3 ans pour savoir s'ils seront délinquants à 7 ans. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que le plus vite possible, nous irons au contact des familles en difficulté, au plus tôt nous éviterons que le fossé se creuse entre ces jeunes et la société. On protégera la société de la délinquance et on fera que les jeunes soient moins en difficulté.
De votre poste à Bobigny,
c'est ce que je dis dans le livre. Enfin bon,
Jean-Pierre, bien sûr, on ira le lire pour les
auditeurs. Non, c'est pas pour ça.
Vous racontez aussi beaucoup, beaucoup d'histoires. C'est un livre absolument passionnant, je le dis au passage. Et entre parenthèses, juste
mais de votre proposition. Il est passionnant, mais je le veux comme un bouquin politique, si vous le voulez, au sens noble du terme.
C'est à la fois témoignage de 40 temps
d'autres votre pourraient témoigner comme moi.
Et aussi des propositions politiques. On y reviendra tout à l'heure, Jean-Pierre Rosenzweig. Juste un mot, parce que justement, depuis ce poste à Bobigny que vous avez occupé pendant plus de 20 ans, voilà, vous avez été aussi parmi les premiers, bon, vous n'éprouvez pas une fierté, c'est un constat, c'est tout, à voir arriver les mineurs étrangers non accompagnés.
La moitié des étrangers qui arrivent en France arrivent
de plus en plus nombreux. On parle de entre 15 et 20 000 aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient que 4 000 il y a quelques années. Ils relèvent de la protection de l'enfance.
De mon point de vue, oui.
Ça incombe au département.
À l'État aussi.
Et justement, en février, le procureur François Molins a été alerté d'une situation très préoccupante juste au sein de Paris. Ils sont 128 mineurs isolés au sein de Paris, livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris. Et le procureur François Molins demande que les cas soient transmis au conseil départemental. Comment les prendre en charge, selon vous?
Alors, d'abord, je vais revenir 20 secondes sur ce que vous disiez. C'est pas une compétence du seul département, c'est pas une compétence du seul État, c'est une compétence conjointe de l'État et du département. Par exemple, qui surveille les frontières? L'État. Qui s'occupe des sans-domicile fixe? L'État. Qui s'occupe globalement de la protection de l'enfance et de veiller à ce qu'elle fonctionne bien à travers la police et le tribunal pour enfants? L'État. Qui rend des comptes à l'international devant le comité des droits de l'enfant? L'État. Donc l'État peut pas dire, comme Charles Pasqua le disait en 95, au département de la Seine-Saint-Denis, vous touchez les royalties de Roissy, donc c'est à vous de vous en préoccuper. Le département, j'allais dire, a des responsabilités, ne peut pas s'en défausser. L'Assemblée des départements de France aurait souhaité, et elle n'a pas obtenu satisfaction, que l'État recentralise la prise en charge des enfants délinquants. Mais alors ça aurait débouché sur un truc abracadabrant au plan international, c'est qu'il y a eu un système pour les enfants français, le département, et un système pour les enfants étrangers, l'État. Allez, on est dans le système actuel. En première ligne, c'est le département, vous avez raison.
Donc François qui est chargé d'évaluer leur situation, de les héberger.
Les héberger, et qui, pour cela, touche ce qu'on appelle la dotation globale, mais qui est insuffisante. Et sur ces cas spécifiques, il faut reconnaître que nous avons obtenu en 2006, grâce au rapport Landrieu, et on y est un peu à l'origine, qu'on vienne dire que c'est une responsabilité conjointe. Alors l'État a dit, ok, c'est une responsabilité conjointe, je paye 5 jours à 250 euros. Et le département dit, camarade, c'est un peu léger, parce que moi je paye pendant 3 ans à 200 euros par jour. Donc quelque part, il y a une partie de bras de fer, j'allais dire de souk, qui est en train de se jouer aujourd'hui entre l'État et les départements. Mais derrière, il y a le problème du RSA, il y a d'autres problèmes économiques, j'en passe des meilleurs, pour que l'État paye mieux au département le coût réel que représentent les enfants étrangers isolés. Mais qui nous pose aussi des problèmes.
Mais on n'est pas à la hauteur du problème là aussi,
non,
alors.
On n'est pas à la hauteur du problème, et pour autant on fait des choses extraordinaires. Je donne une anecdote que je raconte dans le bouquin. L'autre jour, je vais à l'école nationale de la magistrature, et sur le quai du métro, je me fais épingler par un black, par un jeune black, qui n'était pas un grand black d'ailleurs, un petit black, et qui me dit, monsieur Rosenweil, vous me reconnaissez, je vous la fais courte. Hein. Et je lui dis non, et il m'explique sa situation. J'étais mauritanien, je suis toujours mauritanien, je suis devenu français grâce à vous. Et on arrive en haut des marches devant la préfecture de police de Paris. Et je lui dis, mais jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit, moi je suis policier. En d'autres termes, d'un gamin qui était dans l'illégalité, nous en avons fait un gamin qui est porteur de la légalité. Ces situations, il y en a pléthore. Maintenant, il s'avère qu'en bout de chaîne, ce que vous dites, il y a des gamins qui sont à la rue qui ne devraient pas l'être. Et qu'en fin de chaîne, il y a effectivement des gamins pour lesquels on a énormément investi qui ne sont pas régularisés. Donc au début, on est mauvais. À la fin, on est mauvais. Au milieu, on n'est pas trop mauvais.
8h32 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
C'est l'heure de la revue de la semaine par Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors, Nicolas Hulot a lancé hier à Marseille une grande mobilisation pour la sauvegarde des espèces, la biodiversité, tout le monde s'en fiche, avait pourtant déclaré le ministre en mars.
Et pourtant, ce ne sont pas les constats et les rapports qui manquent pour alerter sur la raréfaction de nombreuses espèces, y compris dans nos campagnes. Après une étude il y a quelques mois sur la disparition des oiseaux dont on avait beaucoup parlé, Libération revient en détail.
Et les papillons, dit Jean-Pierre Rosenzweig, en fait. Dans le geste du papillon
tout à fait.
Qui vole.
Libération revient donc en détail sur, je cite, cette grande extinction de la faune et de la flore. Et ce sont de petits détails, raconte le quotidien, auxquels on ne prête pas forcément attention, mais qui deviennent de plus en plus flagrants. Les pare-brises qui ne sont plus maculés d'insectes écrasés, les printemps de plus en plus silencieux, et les coquelicots qui n'égayent plus les blés. Bref, des centaines d'animaux et de plantes de notre quotidien qui se raréfient à une vitesse ahurissante. On apprend par exemple que la population de vers de terre a été divisée par 4 en 40 ans, que l'alouette des champs est désormais le symbole du déclin des oiseaux en milieu agricole et que le hérisson, le lapin de Garenne et l'anguille se font rares. Les chiffres et le ton de ce dossier sont alarmants et pourtant, écrit Libération, la biodiversité est un enjeu mal compris et donc négligé. Le concept né dans les années 80 est pourtant simple. Il désigne le tissu vivant de la planète, l'ensemble des milieux naturels, des espèces et de leurs interactions, Homo sapiens compris. Alors, comment ce dernier est-il parvenu à modifier l'équilibre ? On parle beaucoup du réchauffement climatique, explique Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle, mais il est loin d'être la plus grosse pression sur la biodiversité. C'est plutôt notre usage de la planète. Agriculture intensive, produits phytosanitaires, pollution, destruction des habitats, etc. L'homme est trop prétentieux, dénonce Bruno David. Il pense toujours qu'il pourra s'en sortir avec sa technologie. Or, nous sommes une espèce complexe et donc fragile. C'est à nous-mêmes que nous portons atteinte.
En Italie, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Nombreuses incertitudes après l'annonce cette semaine d'un accord de coalition entre la Ligue, l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles.
Et on trouve une analyse intéressante dans Mediapart sur les conséquences de cette coalition des extrêmes sur la recomposition du paysage politique italien. Certes, les positions anti-européennes et anti-establishment rapprochent pour le moment les deux partis, mais jettent le trouble du côté des électeurs, surtout du côté du M5S. Peut-on être de gauche et participer à une coalition gouvernementale gouvernementale avec l'extrême droite. C'est le dilemme qui se pose à eux. Or, la politique migratoire sera une ligne rouge pour beaucoup qui ne sont pas prêts à accepter l'expulsion des immigrés clandestins. Mediapart rapporte le témoignage de Domenico De Masi, figure de la gauche italienne qui vient de retirer son soutien au mouvement. Il y avait dans le M5S, dit-il, une âme de gauche et une âme de droite. Avec un tel gouvernement, les électeurs de gauche vont fuir tandis que les plus à droite passeront avec la Ligue. Dans 2 ans, prédit-il, Salvini mangera les 5 étoiles. De son côté, le journal italien La Repubblica, à lire sur Courrier International, pointe avec colère et mépris, on le sent, l'impasse dans laquelle se trouvent les deux formations anti-système. Ils sont prisonniers des modèles de populisme qui leur ont permis de l'emporter, analyse le quotidien. Être au pouvoir, c'est convaincre avec des faits, c'est construire de nouveaux équilibres et non prendre un président en location débauché d'un conseil d'administration ou d'une faculté. Bref, affaire à suivre.
Et puis enfin, un sujet qui va sûrement intéresser notre invité Jean-Pierre Rosenzweig, qui s'interroge et qui s'intéresse à la protection de l'enfance. L'Église vient-elle de franchir un pas décisif dans la lutte contre la pédophilie dans ses rangs? Il se trouve qu'on a appris hier la démission d'évêques chiliens, voire des évêques chiliens.
De l'ensemble de l'épiscopat chilien, effectivement. Ils étaient venus à Rome pour faire la lumière sur les scandales d'abus sexuels dans leur pays. Les 34 évêques du Chili ont donc présenté une démission collective hier soir. Une décision importante, a réagi Stéphane Joulin, psychothérapeute et prêtre, auteur de « Combattre l'abus sexuel des enfants », c'est à lire sur le site du journal La Vie. Pour lui, c'est une véritable prise de conscience de la responsabilité collective dans cette crise. Il y a quelques années, raconte-t-il, j'avais suggéré des démissions collectives pour d'autres cas. On m'avait répondu que c'était impossible. Cette fois, un message fort a été envoyé. Il y voit le signe que le pape François prend les moyens d'écouter les victimes et de comprendre leurs paroles. Alors, réaction moins enthousiaste dans La Croix, celle de François Delvaux, président de l'association La Parole Libérée, qui critique une décision très déresponsabilisante finalement, qui noie la responsabilité individuelle, alors que le pape leur avait demandé un devoir de conscience. François Delvaux rappelle qu'au Chili, comme en France, si les choses bougent, c'est, je cite, grâce à la pugnacité des victimes, leur détermination et en aucun cas une prise de conscience de l'institution. Ce sont elles qui ont mis la pression, ces victimes, violées dans leur enfance, qui ont donné un coup de pied dans la fourmilière.
Jean-Pierre Rosenzweig, le rôle des victimes dans ces cas-là?
En l'espèce, il est indéniable, individuellement et collectivement. Mais je voudrais aussi saluer le rôle des journalistes. Parce que si des gens comme Lise Lucet, par exemple, n'avaient pas fait le boulot qu'ils ont fait en interpellant le pape, celui-ci, certes, a du répondant. Hein, il a été formé comme jésuite, il a du répondant. Mais le fait d'être interpellé par des journalistes comme Lise Lucet, à mon avis, ça a contribué aussi à faire bouger le schmilblick. En d'autres termes, bon, le pape a pris une décision politique, c'est la première fois, hein, c'est une première du genre. J'avais en premier réflexe de penser à ce qui s'était passé en Irlande. Vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, il y avait quasiment tous les postes d'évêques qui étaient vacants. Mais là, c'est des décisions judiciaires qui y avaient conduit. Cette fois-ci, c'est une décision politique de celui qui préside l'Église catholique. Donc, on doit la saluer comme telle. Maintenant, ça veut dire aussi que derrière, bah, beaucoup d'institutions, notamment l'Église, a pu, en Angleterre, en Irlande, au Chili, en France aussi, hein, on a eu nos petits scandales et on a nos scandales, eh bien, en ne gérant pas la question de la sexualité des ecclésiastiques, parce que c'est ça la question. Tout est classique qu'ils sont, ils ont le droit à avoir une sexualité. Mais en ne gérant pas cette question de la sexualité, eh ben, trop ont abusé d'enfants, ont usé d'enfants et méritent d'être condamnés.
Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, est avec nous ce matin. Jean-Pierre Rosenzweig, vous signez donc ce livre « Rendre justice aux enfants », d'où cette question que j'avais très envie de vous poser. Est-ce que nous savons rendre justice aux enfants aujourd'hui?
Oui et non. On fait des choses qui sont intéressantes et on peut même, j'allais dire, on a amélioré. Regardez ce qui s'est fait depuis 1980. Alors, 80, c'est le rapport Strauss sur la maltraitance à enfants. Jusqu'à cette période-là, la France dormait sur ses deux oreilles. La patrie autoproclamée des droits de l'homme ne pouvait pas maltraiter les enfants. Strauss nous a réveillés. L'enfant du placard en 83, j'allais dire, là pour le coup, nous a donné une bonne douche. Les circulaires qu'on a à l'époque pondues, la loi qu'on a faite avec Jacques Barrot, j'en passais des meilleurs, toute une série de choses. Il y a toute une dynamique qui a été créée pour améliorer la protection des enfants. On a pris conscience qu'il y avait la maltraitance physique, ensuite qu'il y avait la maltraitance psychologique, qu'il y avait la maltraitance sexuelle, qu'il y avait la maltraitance dans les institutions, et aujourd'hui on parle du trauma somatique, si vous le voulez. Donc petit à petit, nous sommes en train de prendre conscience du sort réel auquel sont voués des enfants, mais à l'inverse, appelons les choses par leur nom, c'est les enfants bien de chez nous qui nous préoccupent. mais les autres ne nous intéressent pas. C'est ce que j'ai dit à mon pot de départ au tribunal de Bobigny. Les enfants qui sont à 500 mètres de chez nous, les enfants roms, hein, qui marchent dans la gadoue, qui n'ont pas de water, qui ne sont pas scolarisés, etc., qui s'en préoccupent. Alors on vient dire que des enfants bien de chez nous n'ont pas les conditions de vie qu'ils devraient avoir, mais les enfants roms ne préoccupent personne. Donc pour répondre à votre question, on a progressé considérablement dans les pratiques, dans les têtes, etc. Et pour autant, on a une marge de progression. L'exemple typique, je vais vous le prendre, hein, c'est les mineurs étrangers isolés dont vous avez parlé il y a 5 minutes. Mais deuxièmement, la France est incapable d'être le 28e pays du Conseil de l'Europe à suivre la recommandation qui a été adoptée en 2009 en notre présence et avec l'accord du ministre de l'époque.
Sur les châtiments corporels.
Madame Morano, sur les châtiments corporels. Et derrière cette question, c'est pas celle de la gifle ou la fessée, comme beaucoup de journalistes caricaturent le débat, c'est celui de l'éducation sans violence. Est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un sans le battre? Bah oui, on peut faire autorité sans frapper. Notre pays est incapable d'avoir ce type de débat.
Vous avez été juge pendant plus de 40 ans, 44 ans, vous avez officié. Votre parcours a été
pendant 10 ans, j'étais à l'extérieur, mais sur le thème de l'enfance, vous avez raison.
Bon, là-dessus, ouais. Qu'est-ce qu'une bonne autorité? Vous posez la question d'ailleurs dans votre livre. Qu'est-ce qu'une bonne autorité d'un adulte sur un enfant?
Bah, c'est
vous
une autorité êtes capable qui est vécue dire, vous... comme étant juste. Comme étant ferme.
C'est une réponse de Normand.
Ah non. C'est le mot le plus important pour les gosses. Il a été sévère, mais il a été juste. Je prends un exemple que je raconte dans le livre de ces gosses qui pleuraient dans mon cabinet parce que je les incarcérais, quand Sarkozy prétendait que j'étais le juge le plus laxiste de France. Mais enfin, bon, peu importe. En tout cas, ils pleuraient dans mon bureau quand je les incarcérais. Et quand ils sortaient de mon bureau, ils me disaient « Merci, monsieur le juge ». Je disais à ma secrétaire et aux avocats « Mais pourquoi ils nous remercient alors qu'on vient de le mettre en tôle ?» Bon. Et quand je fais remonter le policier pour l'affaire suivante, il me dit « Mais il s'attendait à ce qu'il soit incarcéré. Il savait que ce qu'il avait fait justifiait. Mais vous lui avez donné de l'espoir et des perspectives. Donc vous avez été juste. Vous l'avez à la fois puni et vous l'avez pris en compte comme une personne. » Je crois qu'effectivement, l'autorité est toute autorité supportable dès lors qu'elle offre des perspectives. Mais l'autorité pour l'autorité. Tu dois m'obéir parce que tu dois m'obéir. Ça, c'est insupportable. C'est pas la robe du juge. C'est pas la blouse de l'enseignant qui fait l'autorité. C'est ce que le juge exprime. C'est ce que l'enseignant laisse à penser.
Et les parents aussi.
Alors après, on peut mettre le problème des parents. Avec le problème politique que j'essaie de pointer dans le bouquin, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le mot parents, c'est qui fait autorité dans la famille? Ce pays est incapable depuis 20 ans de gérer le problème des familles recomposées, des beaux-pères et des belles-mères. Or, il doit être dit que celui qui vit avec l'enfant, le beau-père ou la belle-mère, a le pouvoir d'exercer la responsabilité des actes de la vie quotidienne à l'égard des enfants sans pour autant désapproprier le père biologique ou la mère biologique. Au père ou la mère biologique, les actes importants, l'orientation scolaire, les opérations importantes, les opérations chirurgicales importantes, la sortie de territoire, mais au beau-père ou la belle-mère qui vit avec l'enfant, les actes de la vie quotidienne, va te coucher, lave-toi les dents, regarde pas le film, montre-moi tes devoirs, va à l'école avec moi, etc., etc. Tant qu'on n'aura pas clarifié les responsabilités au sein de la famille, entre parents, beaux-parents et grands-parents, eh bien les gamins vont louvoyer et s'en sortir. Quitte-toi, t'es pas mon père, va te faire foutre. Mais c'est le même débat qu'au plan politique. Tant qu'on n'aura pas clarifié les responsabilités entre l'État, les collectivités locales, le département et la municipalité, on sera dans la panade. Donc l'enjeu qui est le nôtre, c'est de clarifier les responsabilités de chacun sur le plan politique et public, État, collectivité locale, de clarifier les responsabilités au sein de la famille entre parents, grands-parents, beaux-parents et d'articuler les responsabilités publiques et privées. L'éducation n'est pas que publique, l'éducation n'est pas que privée.
De la même façon que vous articulez, Jean-Pierre Rosenzweig, protection, droit et justice. Puisque en vous entendant parler, on comprend vraiment pourquoi vous siégez aujourd'hui au collège droit de l'enfant auprès de Jacques Toubon, qui est défenseur des droits. On peut être surpris, parce que quand on entend parler un juge pour enfants, on pense le juge est chargé de condamner ou d'innocenter, mais en tous les cas, de rendre justice auprès d'enfants délinquants. Donc on pense pas nécessairement protection de l'enfance. Or, vous écrivez et vous le dites, les droits de l'enfant sont absolument liés, intimement liés à cette question de la justice.
Oui, mais je vais être à la fois technique et après plus ouvrir le débat. C'est intéressant votre approche. Vous cristallisez, et alors même que vous avez lu mon livre, vous cristallisez la justice mineure sur la délinquance juvénile. Alors que l'essentiel du travail d'un juge pour enfants au quotidien, c'est s'occuper des enfants en danger.
On part d'une idée reçue et on lit votre livre, on vous entend parler et en fait on change complètement de point de vue.
Alors de fait, en 1945, la justice des mineurs a été créée, cette ordonnance célèbre de 1945, pour traiter autrement les enfants délinquants avec cette idée, délinquant un jour, pas délinquant toujours, à condition de réparer la carence éducative, en d'autres termes, la répression, l'autorité peut faire éducation, mais c'est pas la seule démarche qu'il faille avoir à l'égard d'un jeune. En 1958, on s'est aperçu, au passage, 45 de Gaulle, 58 de Gaulle. En 58, c'est tellement de crise de société. En 58, on s'aperçoit d'une chose. C'est que dans la même famille, avec les mêmes problèmes, un monsieur qui travaille la nuit, qui trompe un peu sa femme, madame est un peu dépressive, etc., etc. Et vous mettez un petit peu d'alcool au passage. Il y a deux gamins.
Vous dites ça parce que Jackie Durand entre en
studio. Non, du tout. Vous avez un gamin qui fait de l'anorexie et l'autre qui fait de la délinquance. Vous pouviez vous occuper de celui qui faisait de la délinquance, vous ne pouviez pas vous occuper de celui qui faisait de l'anorexie. En d'autres termes, il fallait attendre qu'un enfant fasse commettre un délit pour qu'on vienne se préoccuper de lui. C'était le film Chien perdu sans collier où Jean Gabin dit à un moment donné « Dis-moi que t'as volé ce matin et l'État assure ton avenir ». 58, on vient dire, dès qu'on est en danger, le juge doit s'occuper de vous. Au passage, désormais, c'est le procureur. Mais le juge doit s'occuper de vous. Alors, effectivement, on a compris qu'à la base des difficultés, il y avait une carence éducative qui peut se traduire par la maltraitance, qui peut se traduire par le mal-être, qui peut se traduire par la délinquance. Voilà. Et effectivement, l'essentiel du rôle du juge pour enfants, il est de venir protéger les enfants en général parce qu'ils sont en danger.
De même,
de la société. Mais avec aussi, au passage, j'ai mélangé deux idées au passage, mais c'est important, le procureur de la République qui joue un rôle majeur. Est-ce que vous savez, vous le savez en lisant mon bouquin, que désormais...
Mais les 65... auditeurs qui nous écoutent ne l'ont pas nécessairement...
Non, mais je vous parle à vous.
On parle aux auditeurs, Jean-Pierre.
Oui, mais s'ils veulent lire le bouquin, ils vont l'acheter. Non, mais attendez, c'est un truc important que j'ai même appris à des ministres. 65% de la délinquance juvénile est traitée désormais non pas par le juge pour enfants, mais par le procureur de la République. Le personnage le plus important de la délinquance juvénile aujourd'hui, réponse rapide et ferme, c'est le procureur. Et on voit même les procureurs, mineurs étrangers isolés, s'occuper des enfants en danger. C'est le procureur de Paris ou de Bobigny qui place des gosses à Marseille, à Lille ou ailleurs, ce qui était à Braque-à-l'Abron il y a quelques années.
Restez avec nous, il est 8h47 sur France Culture. On entre dans le dernier quart d'heure des matins du samedi et on commence par l'idée culture. Chaque samedi, une personnalité du monde des idées nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Aujourd'hui, il me semble qu'on parle de sculpture, Mélanie.
On parle de sculpture avec une philosophe. C'est Cécile Renoir qui s'exprime ce matin. Cécile Renoir, philosophe donc et religieuse. Elle enseigne au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Elle est aussi directrice d'un programme de recherche à l'ESSEC. Elle travaille depuis longtemps sur les questions de capitalisme, d'éthique, d'entreprise. Elle vient d'ailleurs de publier son dernier ouvrage, L'entreprise. Entreprise comme commun, c'est aux éditions Charles Léopold Meyer. Alors ce choix, eh bien, c'est lié à un souvenir, hein, comme souvent, mais c'est aussi une certaine idée de l'humanité et de l'engagement.
Alors, j'ai choisi une sculpture de Rodin qui s'appelle La Cathédrale. Ce sont deux mains de deux personnes différentes qui sont jointes, enfin pas tout à fait jointes d'ailleurs, un peu qui forment comme les voûtes d'ogive des cathédrales. On sait que Rodin était quelqu'un qui était passionné par les cathédrales gothiques. Elles sont dressées vers le ciel ensemble. Alors pour moi, elles me parlent beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça évoque pour moi des souvenirs de petite fille, d'enfant ou d'adolescente où j'allais fréquemment jouer au musée Rodin. Et donc, d'une certaine manière, les œuvres de Rodin dans la nature, il n'y avait pas la cathédrale, mais il y en avait d'autres, étaient très présentes. Donc c'est aussi un certain rapport à la nature, au jeu, à la gratuité. Voilà. Et puis, alors, cette sculpture de Rodin, celle-là, je l'ai choisie au moment d'annoncer mon engagement définitif dans la congrégation religieuse à laquelle j'appartiens. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Je cherchais une œuvre d'art qui soit à la fois liée à la question d'un engagement, d'un rapport à la transcendance, mais qui soit en même temps une œuvre qui puisse parler à des personnes qui soient non chrétiens ou agnostiques. Et je trouvais que ce lien entre les mains et ces mains tendues vers le ciel offertes, d'une certaine manière, qui font le lien entre la terre et le ciel, c'était un magnifique symbole aussi de l'engagement qui était le mien, qui est celui d'autres personnes à travers la planète. Et puis d'essayer aussi d'être attentif à tous ces germes de vie dans nos existences et à croire en cette promesse de vie plus forte que la souffrance, que l'absurdité du mal et que la mort. Et du coup, le fait que ce soit deux mains, pour moi, c'est aussi très, très signifiant du rôle des mains. Les mains, elles sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Ce sont les mains qui saluent, les mains qui se tendent, les mains qui accueillent, les mains qui jubilent, les mains qui travaillent, qui construisent. Puis il y a aussi les mains qui peuvent se refermer, qui peuvent agresser. Et puis en même temps, faire confiance dans les capacités incroyables de collaboration, de coopération entre les êtres humains et la nature et tous les éléments du monde qui nous entoure. pour se dire qu'il y a des choses magnifiques à construire. Donc pour moi, cette sculpture de la cathédrale de Rodin, elle évoque tout ça, et c'est pour ça que j'avais envie de le partager aujourd'hui.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu plus précisément ces mains, à quoi elles ressemblent ?
Alors, je ne sais pas si je suis très bonne pour décrire, mais ce sont des mains qui sont assez élancées, des mains droites, deux mains droites. Donc, c'est deux personnes qui les joignent. Alors, de manière en tordant un tout petit peu le mouvement, je pense qu'il n'est pas très naturel, mais du coup, il a une grâce incroyable et les doigts se frôlent, ne se touchent pas. Donc, ça évoque quelque chose à la fois d'une intimité, en tout cas d'une intériorité, de quelque chose qui est comme la grâce qui passe, comme un souffle léger, qui passe à travers ses mains et qui est à la fois orienté vers le ciel, mais en même temps des mains dont on sent bien que ce sont des mains de personnes bien vivantes. Et je crois d'ailleurs que Rodin avait laissé quelques marques pour bien montrer comment ses mains ont quelque chose de très vivant et de pas parfait. Et je réfléchis souvent à ces questions de représentation collective de la vie bonne qui sont absolument nécessaires si nous voulons réussir la transition écologique et sociale. Et d'une certaine manière, ces mains sont un peu une parabole de ce travail à réaliser, qui est à la fois un travail qui peut être par moments bien incertain, dans lequel chacun fait sa part, et en même temps croire qu'en faisant sa part, en y réfléchissant avec d'autres, en essayant de coordonner ses actions individuelles ou collectives dans des petits groupes, eh bien, on peut essayer de changer quelque chose de façon beaucoup plus structurelle et beaucoup plus forte, et d'une certaine manière de répondre aussi par une action déterminée, extrêmement active et non violente à la violence du monde d'aujourd'hui.
Jean-Pierre Rosenzweig, vous aviez envie de dire quelque chose.
Ah, moi, je suis admiratif qu'on puisse parler 10 minutes sur demain. Et alors, avec autant d'émotions et autant d'intérêt.
Oui, parce que c'est vrai que c'est Cyril Renoir.
Mais je suis admiratif, chacun a son créneau. Moi, c'est plutôt la justice.
On ne travaille pas avec les mains quand on est juge, on travaille avec les yeux.
On travaille, oui, avec tout, avec les yeux, les oreilles. Tiens, pour prendre un exemple, j'avais toujours cherché les jeunes et les parents dans le hall de la salle d'attente parce que ce que j'observais me donnait déjà beaucoup d'informations sur ce qui allait se passer dans mon cabinet. Donc voilà. Mais ceci, Rodin, moi, ça m'évoque autre chose, mais c'est vraiment de la plaisanterie. C'est que j'ai souvent souhaité rentrer au musée romain, Rodin. Et surtout avec sa rénovation, quoique, paraît-il, c'est pas extraordinaire, mais enfin, peu importe. En tout cas, c'est si, parce que les trucs sont très, très peu lisibles, me dit ma femme. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est avenue de Matignon. Donc, en allant chez le Premier ministre, on passait toujours devant le musée Rodin. Voilà. Excusez-moi, c'est encore politique.
C'est vrai que tout ça est très, très politique. On passe du coup à la cuisine, qui a aussi une dimension politique, n'est-ce pas, Jackie Durand ?
Ah oui.
Puisque c'est l'heure des mitonnages de Jackie Durand, chroniqueur culinaire, je vais y arriver, à Libération. Cher Jackie, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous annoncez un week-end chargé sur les routes de la cuisine.
Oui, selon Week-end de Pentecôte, vous allez pouvoir vous mettre les pieds sous la table avec trois événements qui nous sont assez emblématiques de l'air, du temps, du boire et du manger. On va commencer par mettre les petits plats dans les grands. C'est la 4e édition de Taste of Paris qui se déroule jusqu'à dimanche soir au Grand Palais. Quand je dis mettre les petits plats dans les grands, c'est que cette manifestation ambitionne rien moins que de porter l'étendard d'une scène gastronomique parisienne, cosmopolite, transgénérationnelle, protéiforme. On y trouve les ambassadeurs de la bistronomie, chefs étoilés, palace, héros de la world food, virtuoses de la pâtisserie, artisans du goût. La programmation du festival ne s'interdit aucun clivage, aucune restriction, s'enthousiasme le dossier de presse, c'est un peu indigeste. Au passage, il faudra que l'on nous explique ce que veut dire ne s'interdire aucun clivage, aucune restriction. Mais bon, on va pas fricasser sur les mots. Allons nous régaler au rendez-vous de Taste of Paris, où on pourra déguster des petits plats à prix sympa concoctés par des chefs étoilés, assister à des cours de cuisine, mais aussi faire son marché gourmand. Maintenant, on met le cap sur l'Ouest. On va à Saint-Brieuc, où depuis 2008, les membres du collectif Rock and Talk proposent de mêler plaisir du son et celui des papilles. C'est simple, il y a de la musique, et puis il y a des chefs, des glaciers, des crêpiers qui font la cuisine. Et donc, on en a dans les oreilles et dans la bouche. C'est quand même assez important, puisqu'en 2017, 16 000 plats et desserts ont été ainsi dégustés. Et puis, tous les ans, Art Rock et Rock and Talk proposent un duo chef étoilé artiste. Cette année, c'est Camille et Nicolas Adam, le chef, qui ont concocté, alors c'est joli comme titre, hein, une joie en bouche aux herbes fraîches, à base de pain baguir, de petite épeautre, de hummus, de légumes, de citron confit. Et puis, enfin, on peut mettre aussi le cap sur le Cantal, Thiézac, ou ne ratez pas, 1, 2, Tripou. Vous connaissez le Tripou, Caroline ?
Oui.
Ah, donc on va se...
J'allais vous dire non.
Non, non, parce qu'on aurait pu en amener au petit déjeuner de la panse de veau ou de mouton avec une pomme de terre, une tranche de pain et un coup de rouge. Tout ça pour vous dire, Caroline, que le boire et le manger, bah, ça donne lieu tout chaque week-end à des flopées de gueuletons, de raout, où évidemment il est question de manger et d'autres activités festives comme la musique, mais il y a aussi des activités militantes comme les circuits courts, la défense de la planète, mais aussi des rendez-vous littéraires. Tiens, du 15 au 17 juin à Dijon, on aura le droit aux rencontres clameurs qui seront dédiées au plaisir de la table.
Et on peut aussi aller pique-niquer.
Ouais, et boire un coup avec les 400 vignerons du syndicat des vignerons indépendants qui font un très beau travail et vous invitent ce week-end de Pentecôte. Alors le principe, il est super simple. Vous amenez votre casse-croûte et puis eux, ils vous offrent un coup de jaja pour le déguster. Ça marche bien, hein, puisque en 2016, les domaines viticoles vignerons indépendants ont reçu plus de 5 millions de touristes pour un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros. Ça marche, cette histoire.
Ça marche très bien, n'est-ce pas, Jean-Pierre Rosenzweig?
Oui, ben vous venez de me donner une idée géniale avec Jackie Durand. Est-ce qu'il serait d'accord pour être mon co-rédacteur du livre que j'ai en tête depuis des années, et je rejoins celui que je viens de publier, sur les restaurants associatifs d'intégration pour les jeunes? En d'autres termes, dans ce pays, il y a plein de travailleurs sociaux qui ont pris pour base la restauration, les restaurants intégratifs. Je pense au Relais à Pantin, mais je pense à d'autres restaurants 4 étoiles, hein, 4 étoiles, hein, dans lesquels j'invite les uns et les autres. Alors mon idée est la suivante, c'est que comme juge et avec un journaliste culinaire, nous allions visiter ces différentes structures et qu'on leur distribue des toques, une toque, deux toques, trois toques, effectivement, et qu'on en fasse le guide culinaire de la protection de l'enfance.
Jackie Durand.
Si vous acceptiez, je le ferai volontiers avec vous.
C'est une idée extrêmement appétissante.
Ah oui, appétissante, ça c'est sûr.
Et
on sera bien reçu.
Et surtout, j'ai eu l'occasion notamment, à travers d'anciennes rubriques consacrées notamment à la banlieue et à la justice, de voir à quel point la nourriture était un lieu de rendez-vous important.
Tout à fait. Dans les foyers,
pour des
mais en tant que tel, pour former des jeunes, pour s'intégrer.
Bien
je
veux
garantir que dans les établissements que je connais, les gamins qui sortent de la diplômée, ils ont une place pour leur vie dans l'hôtellerie.
Vous avez dû sans doute connaître les foyers Concorde?
Oui. Bien sûr.
Et c'est
ceux qui ont fait mon...
Parce que là, vous nous excluez complètement de votre conversation.
C'est ceux qui,
les foyers
c'est
Concorde.
Ceux qui ont fait c'est le foyer Concorde en Seine-Saint-Denis, à Montfermeil. C'est eux qui ont, bien sûr, tenu le buffet de, non pas de mon pot de départ, mais de mon tribunal de départ, puisque je me suis mis en jugement et que j'ai été jugé en leur présence. Mais il y a Concorde, il y a le relais qui est à Pantin, il y en a du côté de Périgueux, il y en a du côté du Kremlin-Bicêtre, il y en a à Metz, enfin, j'en passe à des meilleurs. On pourrait aller faire le tour et montrer à l'opinion que ces gamins qui ont entre guillemets tué père et mère, ce qui n'est pas toujours le cas, ont leur place dans la société dès lors qu'on les accompagne et qu'on leur offre une perspective.
Eh bien, une nouvelle alliance est née, peut-être. Nous verrons le résultat un jour prochain. Et puisque vous avez évoqué, Jackie Durand, la joie en bouche aux herbes fraîches, figurez-vous que le choix musical rejoint cette joie. Il y a de la joie, Charles Trenet.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Jean-Pierre Rosenzweig.
J'ai choisi cette musique parce que effectivement, par rapport à la morosité constante, là on vient de parler des banlieues, tout à l'heure on va parler des dorures de la royauté anglaise, mais il faut être optimiste, il faut être quand beaucoup de gens sont déprimés et pessimistes. Donc Charles Trenet nous a bien remonté le moral pendant des décennies.
Merci beaucoup Jean-Pierre Rosenzweig et merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Nous parler de la justice aux enfants, de la protection des enfants, des droits de l'enfance. On trouve aussi un chapitre sur les droits à l'enfant dans votre ouvrage qui mêle histoire individuelle, votre parcours, les enjeux sociaux, les questions politiques, toutes les questions politiques du moment. C'est un livre que je recommande très chaleureusement. Il est absolument passionnant à lire et il pose tout un tas de questions auxquelles nous sommes invités à réfléchir aujourd'hui. Rendre justice aux enfants.
Et il tente d'apporter des réponses au passage.
Témoigne. Édition, ça c'est vous qui le dites. Un juge témoigne aux éditions du Seuil. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Mélanie Chalandon, Juliette Mauban, Nivol. Et à la réalisation, c'était évidemment Doria Zénine, à la technique Élise Leu. Dans un instant, réplique par Alain Finkielkraut sur Ossip Mandelstam. Il ne faut pas manquer cette émission. Mais pour l'heure, il est bientôt 9h sur France Culture. Les informations dans un instant.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente l'exposition « Fragments urbains » de l'artiste Vils au 104 Paris. à la fois discrètes et frappantes, souvent gigantesques, les œuvres du street artiste Vils représentent des visages anonymes, creusés dans différents matériaux ou à même les murs. Le travail de l'artiste est connu à l'international. C'est cependant la première fois qu'une exposition monographique lui est consacrée en France. Fragments urbains, jusqu'au 29 juillet, au 104 Paris. Un partenariat France Culture.